sur Le Monde. Bonjour Aurélie Didier, vous êtes responsable éditorial Le Monde. L'année 2023 a connu de nombreux bouleversements avec à la clé des rapports de force inédits. De nombreux pays ont pris notamment leur distance par rapport à l'Occident. On va donc prendre le temps de parcourir avec vous certains grands événements de cette année, tenter aussi d'envisager ce qu'ils pourraient impliquer pour 2024. D'abord donc Aurélie, la guerre Israël-Gaza.
Mais oui Sophie, on a tous en mémoire cette date du 7 octobre. Des terroristes du Hamas passent la frontière ultra sécurisée entre la bande de Gaza et Israël. Et ils se livrent à des massacres dans des localités israéliennes et dans un festival.
Insouciants, ces festivaliers ne voient rien venir. Ils dansent, mais dans le ciel, les combattants du Hamas arrivent en ULM. Ils ouvrent le feu, abattent des dizaines de personnes. C'est la panique.
Les terroristes venaient de 4 à 5 endroits différents.
Plus de 1000 personnes sont tuées. Côté israélien, environ 240 sont prises en otage. L'armée israélienne, elle riposte, elle bombarde, elle impose un siège total de la bande de Gaza et lance son opération terrestre. L'objectif d'Israël, anéantir le Hamas. Mais la population gazaoui en paye le prix fort.
Le visage marqué par la terreur, ce petit garçon est coincé sous les décombres avec une femme et une petite fille.
Les Palestiniens manquent de tout, l'aide humanitaire est largement insuffisante selon l'ONU. Face à cela, Sophie, on pourrait dire que la communauté internationale est divisée sur la question du Proche-Orient, mais ce n'est pas tout à fait l'avis de Michel Liégeois, professeur en relations internationales à l'UC Louvain.
On voit les divisions, on voit l'incapacité du Conseil de sécurité à s'entendre, mais en même temps, il y a aujourd'hui plus de réflexion, plus d'engagement de la plupart des acteurs concernés pour rechercher des pistes de solutions politiques au conflit israélo-palestinien qu'il n'y en a pas eu au cours des dernières années. Et donc c'est assez paradoxalement un effet positif du drame qui se joue actuellement à Gaza.
Pour 2024, eh bien, on s'interroge sur l'objectif de l'armée israélienne. Anéantir le Hamas, est-ce vraiment possible quand on sait que la popularité de ce mouvement islamiste ne cesse de grimper depuis le début de la guerre dans les territoires palestiniens? Et on s'interroge aussi sur l'avenir de la bande de Gaza. Qui administrera ce territoire en ruine après la guerre?
Oui, on le voit ces derniers jours. Hein. On ne parle pas de nouvelles trêves, mais plutôt l'inverse, une intensification des combats. Une guerre qui s'annonce longue, a notamment déclaré le chef de l'armée israélienne. Cette guerre en efface une autre, hein, celle que la Russie mène en Ukraine, Aurélie. On se souvient, il y a bientôt 2 ans, le 24 février 2022, la Russie lance une offensive militaire à grande échelle en Ukraine. Comment les choses ont-elles évolué en 2023?
Eh bien Sophie, début 2023, c'est la Russie qui mène la danse avec son armée dans l'est de l'Ukraine. Elle est épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner. C'est grâce à eux que la Russie peut revendiquer la prise de la ville de Bakhmout. Et là encore, les civils payent le prix fort.
Pour échapper aux lourds bombardements...
Je veux juste être à la maison.
Beaucoup vivent dans des sous-sols sans électricité, sans chauffage et sans eau.
Puis en juin, c'est l'Ukraine qui tente de mener la danse avec sa contre-offensive dans l'Est et le Sud. Mais le succès n'est jusqu'à présent pas au rendez-vous et les militaires ukrainiens manquent de munitions.
Nous avons besoin d'aide. Sans soutien, nous perdrons encore des milliers d'hommes et surtout nous perdrons notre pays. Parce qu'après l'Ukraine, il faut bien se rendre compte que la Russie va attaquer d'autres pays. Ça ne s'arrêtera pas là.
Pendant ce temps, aux États-Unis, une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine est pour l'instant bloquée par les Républicains au Congrès. Et au niveau européen, une aide de 50 millions d'euros est bloquée par la Hongrie. L'année 2024 est très incertaine pour l'Ukraine. Michel Liégeois.
Je suis plutôt optimiste pour l'Ukraine. Si l'aide revient avec l'arrivée d'avions de chasse notamment, et donc la possibilité de reprendre des offensives et de profiter quand même de certaines faiblesses de la Russie, ou au contraire, peut-être une prise de conscience que la reconquête de la totalité du territoire n'est pas possible, et que peut-être négocier un cessez-le-feu avec certaines concessions deviendrait une option pratiquement inévitable alors pour le gouvernement ukrainien.
L'autre événement marquant dans cette guerre a eu lieu cette année, le 24 juin, sur le sol russe.
Mais oui, souvenez-vous, en juin, des combattants du groupe Wagner montent sur Moscou. Le président Vladimir Poutine dénonce alors la trahison de leur chef Evgeny Prigogine, et finalement ce dernier ordonne à ses hommes de rentrer dans leur camp. Et deux mois plus tard, eh bien, le patron de Wagner décède mystérieusement dans un crash d'avion. Mais donc, si en juin, Sophie, on s'interrogeait sur la viabilité du régime russe, aujourd'hui ce régime semble renforcé. La prochaine élection présidentielle, c'est en mars 2024. Vladimir Poutine devrait à nouveau l'emporter. On écoute deux moscovites à ce sujet.
Je veux la stabilité et la paix dans ce pays. Et je pense que nous aurons la paix avec cet homme.
Je pense que dans la situation géopolitique actuelle, Vladimir Vladimirovitch est le garant de la Constitution.
Poutine reprend donc du poil de la bête. La Russie fait le gros dos face à l'Occident. Et puis, vous l'avez dit, le soutien américain à l'Ukraine s'effrite. Tout cela arrive en plein contexte préélectoral américain qui voit la possibilité d'un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. L'élection présidentielle est prévue le 5 novembre 2024. Des alternatives, Aurélie, à ce duel entre les deux hommes ?
Ah, très bonne question, Sophie, car la majorité des Américains ne veut pas de ce duel entre les deux hommes. Mais rien n'y fait. Côté démocrate, le mot d'ordre, c'est tous derrière Joe Biden pour la primaire. Il est considéré par le parti comme le seul capable de faire barrage à Donald Trump. Mais les sondages montrent désormais que dans un duel entre les deux hommes, c'est le républicain qui l'emporterait. Certains espèrent donc une autre candidature, celle du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui est de plus en plus populaire. Mais jusqu'à présent, le parti démocrate reste accroché à Joe Biden. Et puis, côté républicain, Donald Trump devance largement ses adversaires en vue de la primaire. Ron DeSantis, il a perdu en crédibilité. Par contre, une autre personne monte dans les sondages. C'est Nikki Haley. Elle avait été, souvenez-vous, ambassadrice américaine à l'ONU. On s'interroge désormais sur ses chances face à Donald Trump, qui, lui, fait face à plusieurs procès.
Oui, donc l'élément décisif sera probablement de nature judiciaire. Si, malgré ses difficultés actuelles, Donald Trump est en mesure de se présenter, il sera le candidat du Parti républicain. Si, en revanche, les procédures judiciaires actuellement en cours amènent le Parti républicain à la conclusion qu'il est trop risqué ou voire impossible juridiquement que Trump se présente, alors Nikki Haley est probablement la meilleure candidate de substitution pour représenter le Parti républicain dans cette élection.
Et donc, vous l'avez compris, ce qu'il faudra observer en 2024, c'est le calendrier électoral de Donald Trump qui va vraiment se coller au calendrier judiciaire puisqu'il est inculpé dans plusieurs affaires et pourrait l'être dans d'autres.
Donald Trump, possible candidat républicain donc pour la prochaine présidentielle américaine. On le sait, il a inspiré plusieurs leaders populistes lors de son mandat présidentiel entre 2016 et 2020. Le dernier en date à avoir remporté une élection, c'est Javier Milei en Argentine.
Oui, Javier Milei, c'est un ultralibéral, économiste de formation. Et comme Trump, il se définit comme un anti-système. Donc son pays, c'est vrai, est en proie à une inflation record. Et Javier Milei, il promet une thérapie de choc avec des privatisations et des coupes dans les dépenses publiques, entre autres. Et en 2024, on verra si Milei arrivera à tenir ses promesses. On décryptera aussi l'évolution des leaders populistes et anti-système dans le monde, comme Trump, comme Milei et d'autres.
On fait une dernière étape, Aurélie, en Afrique, qui a connu de grands bouleversements aussi en 2023.
Oui, et prenons l'exemple du Sahel, cette grande région à cheval sur plusieurs pays au nord de l'Afrique. Là, cette année, le Niger a connu un coup d'État en juillet dernier. La France a dû retirer ses troupes du pays. Et c'est aussi ce qu'elle avait dû faire au Mali et au Burkina Faso, souvenez-vous. Et donc, c'est une zone qui a connu un basculement géopolitique spectaculaire en 10 ans, Sophie. Si on remonte dans le temps, on se rappelle qu'en 2013, François Hollande avait été acclamé au Mali car l'intervention militaire française avait permis d'éviter la prise de pouvoir des djihadistes. Aujourd'hui, en 2023, la France n'est clairement plus la bienvenue dans ces pays du Sahel.
La grande question, c'est qu'est-ce qui va se produire après ? Parce que le départ de la France laisse un vide qui ne peut pas être comblé par Wagner. Wagner peut assurer la sécurité d'un quartier de ministère, mais pas tous les moyens qui étaient déployés auparavant par la France avec ses alliés africains. Et donc le risque est évidemment une déstabilisation générale de la région. C'est un scénario qui est tout à fait possible.
Voilà, Sophie, quelques grands enjeux dans le monde pour 2024. Impossible de citer ici tous les conflits de basse et haute intensité. Mais nous continuerons à porter une attention à toutes les victimes des guerres et des catastrophes dans le monde. L'ONU le rappelle, les déplacés à cause des violences, des conflits et des persécutions sont plus de 110 millions dans le monde en 2023.
Merci Aurélie Didier d'avoir